Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, et j'accompagne les professionnels de la mode, du textile et du luxe dans la transformation de leurs pratiques vers plus de responsabilités. Mon job, c'est de rendre visibles les acteurs et actrices de la mutation profonde et au passage, de proposer de nouveaux narratifs. Ici, on restaure le leadership à la française, on met en lumière les innovations qui décarbonent à l'échelle industrielle et on convoque l'humain qui sommeille dans tout décideur pour faire pencher son libre arbitre en faveur de choix qui façonnent positivement le monde de demain. Lire l'avenir dans le présent. Pas une diseuse de bonne aventure ni de prophétie autoréalisatrice. Nelly Roddy est un être hypersensible qui a réussi l'exercice brillant, non seulement d'en faire un métier, mais d'imposer son entreprise au monde entier. Le bureau Nelly Roddy est aujourd'hui leader dans la prévision de tendances pour l'industrie au global ou des clients en particulier qui attendent les cahiers de tendances, osons le dire, comme le Messie. Si Nelly Roddy et ses collaborateurs collectionnent et ordonnent les indices qui feront peut-être le futur de nos dressings, cette grande dame de l'habillement, de la décoration, de la cosmétique ou encore de l'art de vivre puise également ses inspirations dans la variété grandiose de ses souvenirs. Dans le livre qui sort cette année, intitulé « Quelques saisons d'avance » aux éditions Bouquin, on se plonge avec délices dans les détails parcimonieux d'une vie foisonnante de rencontres et d'expériences humaines et créatives extraordinaires. C'est pourtant bien les pieds sur terre que l'on revient, à l'aune des affres du climat, avec des questions cartésiennes et une certaine jalousie quant à l'insouciance que le monde d'avant a seul pu connaître. Qu'est-ce qu'une tendance à l'heure du tout digital et des collections hebdomadaires des marques de fast fashion? Si les cabinets de tendance sont des guides pour les marques de mode, est-il possible d'utiliser leur pouvoir en faveur d'une transformation sociétale vers un développement durable? Et encore plus sérieux peut-être, peut-on diluer la créativité dans l'overdose? Auquel cas, la mode dessert-elle son propre propos? Puisqu'à n'en pas douter, vous resterez comme moi sur votre faim après cet épisode, foncez vous procurer une copie du livre de Nelly Roddy, quelques saisons d'avance, en ligne ou dans toute bonne librairie. Et d'ici là, bonne écoute! Bonjour Nelly.
Bonjour.
Merci infiniment d'être ici aujourd'hui. Alors, je suis assez émue. Je dois avouer que je ne savais pas trop par quel bout prendre cet épisode, étant donné la richesse annoncée. J'ai dévoré votre livre et je dois vous dire que j'étais particulièrement sensible au fait que ça ait résonné beaucoup en moi, à la façon non pas dont j'envisageais le job de rêve qui a un petit peu été le vôtre, parce que c'est vrai que ce parcours fait rêver, et on va en parler en détail, mais plutôt parce que c'est assez rare d'avoir une personne dont le parcours valide des intuitions que j'ai pu avoir en ce qui concerne ma propre sensibilité, ma capacité à engranger des informations, ma curiosité qui a pu paraître mal placée et qui a souvent tenter à grand renfort de parcours scolaire carré d'être orientée dans une seule direction. J'ai, en tant qu'enfant, toujours été extrêmement curieuse et donc apte à associer des signes. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait en faire un métier. Et vers la vingtaine, j'ai entendu parler de peut-être une personnalité que vous connaissez, Emily Wapnick, qui est une jeune femme anglaise qui a fait un TED Talk intitulé « Why some of us don't have a true calling », donc pourquoi certains d'entre nous n'ont pas une seule vocation. Et elle expliquait qu'elle, généralement, tous les 6 mois, elle changeait de sujet, elle creusait à fond dans quelque chose, elle s'y intéressait, elle pensait avoir trouvé sa vocation, puis elle passait à autre chose. et jusqu'à ce qu'elle réalise que finalement c'était pas un défaut de sa part et que si elle rentrait pas dans les cases sociétales, il fallait qu'elle se creuse son propre chemin. J'ai la sensation que c'est ce que vous avez fait pour vous-même et que non seulement vous l'avez fait pour vous, mais qu'en plus vous avez réussi à l'amplifier, à transmettre ou peut-être à reconnaître vos pairs et à les faire travailler pour vous en France et à l'international. Vous êtes la fondatrice de l'agence éponyme. Curieuse de savoir pourquoi il n'y a pas d'espace entre Nelly et Rodi dans le nom de l'agence. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter avec vos mots ?
Oui, je m'appelle Nelly Rodi, donc Nelly plus loin Rodi. Et lorsque nous avons fait l'agence, et comme il y a toute une équipe importante, nous avons pensé que c'était bien de rassembler le Nelly et le Rodi. Et il y a Trendlab à côté. Nelly Rodi, Trendlab, en réalité, la société s'appelle. Mais la personne, elle s'appelle Nelly Rodi. C'est mon nom de naissance. Alors, vous racontez ma vie et les multiples vies dont vous parlez, parce que c'est un peu ça. Je suis né à Angers, au pont de Cé, très exactement, au bord de la Loire. Enfin, je vais essayer d'être concise et rapide tout de même, parce que je suis une vieille dame maintenant, donc il y a beaucoup à raconter. Ce que j'ignorais, parce que j'étais trop petite, c'est que mon grand-père était dentelier, mais je ne l'ai jamais su. Ma mère et mon grand-père étaient apparemment fâchés, ne se parlaient pas. Et donc, je n'ai su que très tardivement, lorsque j'avais peut-être 10 ans, que mon grand-père avait une usine de dentelle et de broderie qui, pendant la guerre, avait été bombardée. C'était à Chemillé, à côté d'Angers. Je n'ai pas du tout d'atavisme textile parce que je ne l'ai pas su. Je ne l'ai su que bien tardivement. Et j'ai trouvé ça, d'ailleurs, lorsque je me suis occupé à un moment donné des tendances des dentelles de Calais, de la ville de Calais, j'avoue que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui était, comme je savais à ce moment-là que mon grand-père était dentelier et brodeur, qu'il y avait quelque chose dans le destin qui était assez incroyable.
Un petit sujet de mémoire transgénérationnelle, je ne suis pas sûre que ce soit complètement un hasard, cette histoire de destin. Mais...
C'est je pense comme vous. Sur ce sujet-là, je pense comme vous. Je pense qu'il n'y a pas en fait, de hasard et qu'il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas encore expliquer. Peut-être que l'intelligence artificielle nous l'expliquera pour le moment.
Est-ce que vous savez ce qui est devenu son atelier de dentelle ? Est-ce qu'il y avait quelque chose à... réparé, on va dire, à la suite, je ne sais pas, d'une fermeture d'entreprise.
Ça a été récupéré. Lui, il avait acheté, j'ai su après, aux établissements Bazin et cette usine que donc il faisait fonctionner. Et puis ensuite, ça a été racheté et ça existe encore. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, d'après ce que de temps en temps je regarde sur Internet pour voir ce qui se passe, et d'après ce que j'ai compris, ils font de la broderie publicitaire, des éléments, des bannières publicitaires. À l'époque, c'était des broderies qui n'étaient pas pour le vêtement d'ailleurs. D'après aussi, c'était des broderies que l'on encadrait et que l'on mettait comme décoration dans les intérieurs. Mais je vous parle vraiment des années 40, hein, de 1940, donc c'est pas hier. Je vais quand même pas vous raconter toute ma vie.
Ah, c'est mais pas on possible, a si. Tout le temps. Et à vrai dire, je vais peut-être vous orienter un petit peu, mais j'étais assez curieuse de savoir si, d'après vous, cette intuition que vous avez d'assembler des signes et d'en restituer quelque chose de compréhensible par vos pairs qui n'ont pas cette intuition est quelque chose d'inné ou d'acquis. Puisque je me faisais la réflexion que si je peux ressentir un petit peu de ce que vous avez de méthodologie, de ce qui est détaillé dans le livre et de votre façon de travailler, à titre personnel, moi, je n'ai pas du tout eu une enfance hétéroclite comme la vôtre, eu l'occasion de voyager dès un très jeune âge et donc d'être... éveillée, j'ai été éveillée culturellement, mais pas du tout, pas particulièrement aux vêtements. Et je me disais, finalement, j'ai la sensation que chez moi, c'est une aptitude acquise que j'ai travaillée par la suite. C'est l'inverse. Je me disais que chez moi, c'était plutôt inné. Et j'ai travaillé ensuite à développer cette capacité. Est-ce que vous pensez que c'est votre enfance que vous pouvez nous raconter qui a fait cette curiosité ? Ou bien, que vous avez cette petite flamme en vous.
Non, je crois avoir cette flamme. C'est surtout finalement un ressort personnel où on se dit à des moments de sa vie, oui, je serai ça. Je ne sais pas comment vous dire. On sent que on peut arriver à quelque chose de fort, enfin que l'on a la puissance interne. Mais on ne cherche pas, c'est pas dans l'environnement. Je pense avoir fait ma vie au fur et à mesure des différents éléments qui me sont arrivés, parce que je croyais en ma puissance personnelle. C'est un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais quand je dis puissance personnelle, je veux dire ma force intérieure, le goût du travail, l'envie de connaître des choses, de s'ouvrir à d'autres mondes. J'ai travaillé toute ma vie dans la mode et dans la décoration intérieure, dans les industries créatives, on va dire, au sens très large. C'était pas mon milieu d'enfance du tout. Je l'ai construit, mais je l'ai construit quand j'ai compris ce que l'art pouvait m'apporter, ce que, en observant certains milieux, comment je pouvais moi-même m'éduquer. Donc c'est un travail personnel et interne. Et c'est pour ça que dans le livre, d'ailleurs, je dis très souvent « soyez curieux », parce que c'est pour moi la qualité majeure, c'est d'aller regarder ailleurs et de chercher et de s'approprier, d'essayer de comprendre et de s'approprier les différents éléments.
Allez-y.
Non.
On peut peut-être expliquer.
Pour revenir, oui. Donc, rapidement à cette enfance, je ne serais pas née s'il n'y avait pas eu un hasard. Est-ce que le hasard existe ? Je n'y crois pas. Incroyable. Mon père a été prisonnier et il s'évade pendant la guerre et il avait une correspondante de
en
guerre.
En Algérie, donc.
En 39, quelque chose comme ça.
En Algérie, donc. Hein, c'est...
Non, à Angers.
À Angers, pardon.
Oui, non, il était en France, il était dans un camp en France de prisonniers.
D'accord, très bien.
Et il s'évade, mais il avait pendant la guerre une correspondante de guerre avec qui, vous savez, pendant la guerre, des jeunes femmes écrivaient, envoyaient des colis, etc. Et pendant un mois, il erre en France, dans les champs, partout, il se cache. Et il se dit, je vais essayer d'atteindre ma correspondante de guerre qu'il ne connaissait pas. Et il arrive à Chemillé, près d'Angers, voir cette correspondante de guerre. Il ouvre la porte et ma tante, lui était la correspondante de guerre. Et elle le voit bien sale. Et la première chose qu'elle fait, c'est de lui donner un bain. et ensuite, elle lui présente sa sœur, qui est devenue ma mère. Et donc, mon père est tombé amoureux de la sœur de sa correspondante de guerre. Ils ont eu un fils et ils m'ont eu, moi, pendant la guerre, deuxième enfant. Et ils font leur vie donc, pendant quelques années à Chemillé. Et ensuite, un oncle les appelle pour leur dire, j'ai un restaurant à Alger, tu ne veux pas, à la sortie de la guerre, tu ne veux pas venir comme gérant. Et viens donc, tu vas t'occuper de mon restaurant. Donc j'avais 4 ans lorsque je pars à Alger. J'étais à Angers, puis à Alger. Et où j'ai des souvenirs de lumière, par rapport à qu'est-ce que ça m'a apporté dans mon métier.
Bien sûr.
C'est vraiment cette ville magnifique, cette ville immaculée d'Alger, toute blanche. Enfin, je me revois comme... Très honnêtement, j'avais 4 ans ou 4 ans et demi, et je revois l'arrivée en bateau à Alger de cette magnifique ville. Et donc mes parents, maman était sage-femme à Angers précédemment, donc elle s'installe à l'hôpital, elle soigne les gens. Et moi je suis mêlée, je vais chez les sœurs, mon frère va chez les frères. Et nous sommes mêlés à une éducation mixte, Et on joue dans la rue, tout enfant confondu. Mais l'apport des marchés à ciel ouvert, des fruits, des couleurs, de la lumière, de ce soleil permanent, lorsque je suis rentrée, que j'avais 14 ans, donc 10 ans après, je ne savais pas ce que voulait dire chauffage, un radiateur, on ne connaissait pas. Donc c'est une vie extrêmement différente, de plein air, de plage, de mer, de chasse sous-marine, voilà. Et qui ça vous ouvre l'esprit de manière assez extraordinaire. Par contre, à 14 ans, un événement dramatique nous arrive, puisque les événements d'Algérie démarrent, et qu'à ce moment-là, tous les restaurants doivent disparaître, les restaurants français doivent disparaître de la ville. Et donc, je suis emmené dans un commissariat, je retrouve mes parents, je vais très très vite. Et là, nous partons, on nous met sur le premier bateau pour rentrer à Marseille. Et pour être honnête, là encore, il n'y a pas de hasard, car mes parents étaient en larmes et pas moi. Alors que j'avais passé une enfance normale.
Et que vous avez tout laissé sur place. Vous écrivez partir avec trois fois rien.
Rien, rien, vraiment rien. Si je vous dis rien, c'est vraiment rien. Et non, mon père n'avait rien, il n'avait même pas pu prendre l'argent de la caisse. Enfin bon, on n'est pas là pour faire du trémolo, mais non, vraiment rien. Donc mes parents étaient bien évidemment en larmes, mon frère est né en larmes aussi, donc il avait 2 ans de plus que moi. Pour lui, c'était 16 ans, un garçon, c'est encore plus fort que pour une fille de 14 ans. Mais moi, j'avais le sentiment qu'une nouvelle vie m'attendait, que j'allais justement pouvoir me... C'est vrai, ceci dit, que les pays d'Afrique du Nord, pour les femmes, si je peux me permettre à l'âge que j'ai de porter un jugement, c'est pas un jugement, mais c'est une opinion en tous les cas, c'est pas simple pour des jeunes filles. Les attouchements sont faciles. Bien sûr, le MeToo n'existait pas, mais vous passez la main sur les fesses ou sur les seins, c'était quelque chose qui était simple, si vous voulez, et donc qui était admis dans la culture. Ce départ et cette arrivée en France, pour moi, était une nouvelle naissance et était... Je savais que j'allais pouvoir m'exprimer, pouvoir faire de ma vie, construire ma vie, etc. Voilà. Et donc, nous sommes partis en Suisse pendant 1 an et demi, chez des cousins de ma mère qui étaient suisse-allemandes à l'origine. Mon grand-père était suisse-allemand, ma grand-mère aussi, du côté maternel. Et nous revenons en région parisienne, où là, mes parents m'inscrivent dans une école, puis à Saint-Germain-en-Laye, ensuite dans une autre école. Et ma mère redémarre son métier de sage-femme dans un petit village à 40 km de Paris, qui était Flins, là où les usines Renault Flins s'installaient. Et elle devient mère de son village. Donc elle aussi, elle se fait une nouvelle vie et elle devient conseillère générale, sénateur. Et donc elle a terminé. Et peut-être pas par hasard non plus, je porte le nom de ma mère. Nous nous appelions toutes les deux Nelly, même prénom. Ce qui n'est pas facile dans les familles, mais c'est encore une autre histoire. Et moi... très attiré par le droit, je vais au palais de justice dès que j'ai un samedi de libre ou un moment de libre, avec une envie de défendre des causes. Pourquoi ? Je n'ai pas d'explication encore aujourd'hui, mais peut-être parce que ma voix que vous entendez là aujourd'hui est quelque chose qui m'a toujours poursuivi. Ça aussi, c'est un... je n'en parle pas dans le livre, mais c'est quelque chose. Lorsque j'étais petite, on m'appelait le loup-garou parce que j'avais une voix grave. Alors les enfants disaient « Oh, voilà le loup-garou !» Et à un moment donné, j'ai décidé que cette voix allait devenir un élément positif et non pas un élément négatif. À tel point que lorsque je voulais être avocate, je savais qu'il fallait que je mette ma voix à un certain niveau et que mon message passerait mieux si je la travaillais plutôt que de la laisser partir comme ça. Et d'ailleurs, je m'en suis servi ensuite pour être très, très honnête. Lorsque j'ai fait les cahiers, les premiers audiovisuels de tendance dans des salons, des conférences, etc., et j'ose vous le dire, je préférais mettre la salle dans le noir pour pas qu'on ne me voie, parce que physiquement, je n'ai jamais aimé mon physique. Mais par contre, ma voix, je savais qu'elle passait mieux et qu'il fallait s'en servir. Donc, j'ai fait un BTS de commerce, en fait, et j'avais ensuite envie de continuer le droit. Pour les raisons rapides que je viens de vous expliquer. Et puis, je suis extrêmement honnête avec vous. Je demande à mes parents, est-ce que je peux continuer le droit, etc. Et nous ne roulions pas sur l'or. Et mes parents me répondent, ça va être difficile, on ne pourra pas assumer pour toi, etc. Et donc, je demande à mon prof, qui me dit « fais un stage de toute façon, puis tu vas voir après ». Et, aux merveilles, elle me demande de choisir dans une liste. Et très honnêtement, c'était, quand je vois les pauvres stagiaires aujourd'hui qui ne trouvent pas de job après 2 ans, etc., j'ai eu énormément de chance là encore. On me propose une liste, fabricant de pétrole, de banque, etc. Ça ne m'attirait pas, mais je vois prise unique. Et là, je me dis, prise unique, formidable. Alors, pour vous, vous êtes trop jeune.
Oh non, mais... J'ai connu l'avant Monoprix et j'ai un souvenir très heureux avant ce Monoprix. Type de magasin.
Et surtout, j'arrive en stage, une femme incroyable. Et là, elle s'appelle Denise Fayol. Elle s'est ensuite associée, elle était mariée, elles étaient mariées. Maïmé Arnaudin était mariée également, mais elles ont vécu ensemble et elles se sont associées pour faire Mafia, une agence de pub, de style et de pub, qui est plus de pub que de style. Là, c'était magique parce qu'on était dans un produit pas cher. Moi, je ne savais pas ce que voulait dire produit, même. Je découvre un monde de marchandises qu'il faut commercialiser à un certain prix. Mais surtout, Denise, avec une esthétique, Denise Fayol, nous étions en 1963. Dans des années où le design apparaît avant les années 70, entre 60 et 70. C'est le design qui vient transformer la fonction, mais l'esthétique également de l'objet et de la forme. Et faire cette découverte-là, pour moi, ça a été... Et là, je me suis tout de suite dit, mais c'est là, c'est ce milieu-là dans lequel je veux être. Et j'ai tout fait pour continuer. Donc, Denise m'a mis entre les mains des beaux coups de couleurs. Je m'en rappelle là aussi, comme si c'était hier.
Pour bien comprendre, c'était un poste de direction des achats pour
oui,
j'étais.
Alors, c'était pas la direction, c'était au marketing. Et on n'utilisait même pas le mot marketing. Le mot marketing est sorti dans les années 80. C'était un bureau d'achat, effectivement. C'était le bureau d'achat d'approvisionnement des marchandises.
Donc, responsabilité de choisir ce qui allait faire finalement.
Ce qui allait se mettre dans les rayons.
Commerce, quoi.
Voilà. Et donc, Denise arrive, si on a un peu de temps, je vous raconte. Denise me pose des bocaux de couleurs, des bocaux avec des centaines de bleus, un autre bocal avec des centaines de rouges, de jaunes, etc. Et elle m'apporte une paire de charentaises et elle me dit « Nelly, il n'y a pas de raison que nos grands-mères aient des choses tristes parce que les charentaises en 1963, c'était noir et blanc, noir et gris. » Et elle me dit, essaye de faire de la couleur et réfléchis un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre un petit fil, à le mettre, à le croiser avec un autre. Et ces 3 mois de stage ont été pour moi complètement...
Le point d'inflexion de toute une vie. Quoi.
Oui, d'une vie même, d'une vie.
Et puis, on peut aussi le dire modestement... d'une industrie, parce que, mine de rien, vous avez été sacrément game changer, comme on dit. On va expliquer comment est-ce que vous avez construit la suite. Avant ça, je suis assez curieuse, parce que jusqu'ici, j'entends plein de choses du rapport au voyage que vous avez cultivé par la suite, mais donc ce côté déraciné plusieurs fois dans l'enfance, dans l'adolescence, qui forcément ouvre grandement l'esprit, une appétence pour son prochain aussi, la curiosité que vous décrivez. Bon, pareil, le restaurant, c'est pas anodin comme type d'emploi pour des parents, parce que ça brasse du monde et que pour moi, j'adore faire des cafés d'observation ou simplement en posant dans la rue, je regarde les gens passer pour voir un peu quel est l'air du temps et comment on s'habille. Tristement, je dois dire aujourd'hui, mais c'est une autre histoire.
Non, il y a encore des flashs.
C'est vrai, effectivement. Jusqu'ici, vous ne m'avez pas parlé de votre rapport aux vêtements et de votre rapport au style. À quel moment la notion de, avant même de mode, mais d'esthétique vestimentaire rentre dans votre vie ?
À ce moment-là. À ce moment-là, pas avant. Avant, nous étions dans le fonctionnel. Enfin, il n'y avait pas de fanfreluche. Ma mère était suisse allemande, mais c'était assez rigide dans son esprit. Et très honnêtement, elle avait un côté bonne sœur, alors je le mets entre guillemets, bonne sœur, mais vous comprenez ce que je veux dire. Elle se donnait aux autres, donc sa première fonction à elle, c'est d'aller vers l'autre, et c'était pas de se... tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle est devenue sénateur, elle a appris à parler, à faire des discours, elle avait 60 ans, et elle a commencé, elle se maquillait, elle ne mettait que de l'huile d'olive sur les paupières, et c'était tout. Et de l'huile d'amande douce. Pardon.
L'ancêtre du glow, quoi.
Voilà. Et donc, chez nous, c'était pas l'esthétique qui était en premier de cordée. C'est à l'arrivée de Prise Unique, mais c'est ensuite au premier stage. C'est pas stage, j'ai été engagée par le secrétariat international de la laine, par la Woolmark, comme assistante. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la mode. Je suis arrivé, Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent venaient d'avoir leur prix, le prix de la Woolmark, mais qui, à l'époque, c'était les prix de la haute couture. Enfin, ça représentait, comme la Fashion Week d'aujourd'hui, l'image.
Oui, c'était énorme.
Voilà, énorme. Et moi, on me faisait porter, j'étais petite assistante, mais je portais les vêtements pour aller dans les studios photos, etc., les mannequins, les maquillages. Et c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai compris l'importance d'un vêtement.
C'est assez intéressant parce que vous décrivez bien dans le livre que justement cette entrée vraiment dans ce monde professionnel par la Woolmark anciennement vous amène à une connaissance profonde du textile avant même de la notion de mode finalement et puis encore celle de tendance qui est autre chose. Et donc vous avez au départ une vraie connaissance terrain, un réseau mais aussi une connaissance métier et un rapport de proximité avec les étapes de production.
Que j'ai acquis grâce à la Woolmark. Car en fait, très vite, ma directrice de mode, qui s'appelait Martine Giroir à l'époque, qui est décédée, et Claude-Hélène Neff, la directrice internationale de mode, voulait m'éduquer. Et justement, probablement, entre nous, je pense qu'elle sentait qu'il y avait un potentiel, il y avait une bonne femme qui en voulait, enfin une jeune femme qui en voulait. Et elles m'ont envoyé dans des usines faire des stages et de la formation textile. Et donc, j'allais dans le Nord, chez Paul et Gentil Berguin, avec un monsieur qui était chef de fabrication et qui s'appelait Monsieur L'Œil, et qui m'a tout appris. Et donc, quand j'ai compris comment un tissu se faisait, le fil, quand on comprend que C'est de là que tout part. Est-ce que quand on va vouloir faire un vêtement, est-ce que il doit être fluide et il doit. Je veux faire une robe plissée, je veux faire une robe coupée dans le biais, je veux faire un tailleur, une veste. Qu'est-ce que je veux faire? Un pull. Et donc, mais avec quelle matière? Parce qu'on peut pas le faire si on n'a pas la bonne matière. Et donc, j'ai appris techniquement ce que voulait dire un titrage de fil, ce qu'était un métier à tisser ou à tricoter. Et ensuite, ça m'a permis de faire la promotion des tissus de laine. Mmh. Je partais chez les tisseurs, je ramenais des échantillons et je leur montrais en leur disant, pour l'hiver prochain, il faut me faire avec un petit tweed. Vous voyez la veste que Chanel a faite l'hiver dernier. Elle a un petit bouton qui est noir et blanc, là, qui est comme ça. Il faut faire un bouton sur votre fil. Voilà. Mais je leur parlais un peu technique. Et ces messieurs, parce que c'est un monde de messieurs, les usines à cette époque-là, en tous les cas, il n'y avait pas de femmes du tout, du tout, du tout, étaient un peu plus gentils. Enfin, je trouve pas, je trouve pas.
Vous étiez crédible en tout cas.
Voilà, moi, j'étais acceptée plus facilement du fait que je leur parlais technique. Oui, effectivement.
Mais je pense que c'est également vrai, si on va parler ensuite du cahier de tendance et du travail de Nelly Rodi, mais les tendances, ça peut paraître comme étant une chose assez futile, un peu de la prophétie autoréalisatrice quand on voit ça de l'extérieur en disant « bon ok, on va définir une couleur et puis toute la saison va en être inondée ». En réalité, si vous n'avez pas cette connaissance terrain, c'est pas applicable par les maisons. Ou alors, ça donne ce qu'on connaît aujourd'hui, à savoir de la fast ou de l'ultra fast fashion, qui sont complètement décorrélés de ces notions de qualité et de belle façon.
Oui, c'est surtout un outil de travail, en fait, la tendance. Ça permet, pas comme on le dit aujourd'hui, on dit ces tendances, mais c'est pas ça du tout ce dont nous parlons. Ça permet de préparer des collections futures. C'est un outil de travail. Une tendance pour dans 2 ans, en ce moment nous faisons l'été 26, oui. Ce sont des outils de travail pour que les industriels, c'est donc pour répondre à une industrie, pour que les industriels puissent produire au bon moment les bons éléments. Nous avons même, petite anecdote, je me souviens, alors je crois que c'est quand j'étais à l'Institut international du coton. Après, j'avais eu des discussions avec la rue de Sèvres, avec le comité de détaillants de la rue de Sèvres. Et justement, lorsque nous avions travaillé en amont des marrons, les couleurs marrons, et j'avais réussi à convaincre le président de la commission qu'il fallait que toute la rue de Sèvres soit en marron. Comment est-ce qu'on peut l'imaginer aujourd'hui? Vous voyez, c'est inimaginable, mais j'ai réussi mon coup dans ces années-là. Mais c'est inimaginable aujourd'hui. Mais parce que on avait conscience de cette pyramide et qu'on dépendait les uns des autres de cette chaîne de 48 mois de production, puisqu'on commence d'abord un fil, les couleurs, on transforme en tissu, et ensuite on transforme en vêtements, et ensuite on vend. Donc à chaque fois, il y a un circuit de 3 à 6 mois entre les différentes strates de la production.
C'est intéressant parce qu'à vous entendre parler, donc je ne veux pas spoiler le livre, dedans il y a évidemment une collection de noms absolument incroyables de gens qui ont jalonné votre parcours, des Courrèges, des Saint-Laurent, des Pierre Berger, des gens aussi plus du côté industriel dont les noms sont moins clinquants mais qui sont tout aussi importants dans la profession, et vous abordez, je trouve, en tout cas tel que c'est raconté, ces personnes avec une forme de constante humilité, à la fois de grand respect pour la profession, mais en même temps, tout le monde est pas sur un pied d'égalité, mais en tout cas, il n'y a pas forcément de déification, de glorification. Vous cherchez beaucoup à comprendre, vous donnez à aucun moment votre avis sur ça, c'était de bon goût, ça, c'était de mauvais goût. Et ça, c'est assez intéressant aussi comme posture, parce qu'on pourrait dire, vous faites la pluie et le beau temps en décidant que ça va être telle couleur une saison et telle saison une autre. Or, il y a vraiment cette posture d'observateur dans votre métier.
Oui, c'est le rôle de l'agence, des agences de style. Et si j'ai écrit ce livre, c'est aussi pour qu'on n'oublie pas ça, qu'on n'oublie pas l'importance que les agences de style ont eue dans ces années 80. car aujourd'hui, je fais une toute petite parenthèse, mais aujourd'hui, finalement, toutes les boîtes ont intégré dans leur société un bureau du style. Mmh. Donc, ils ont, quand je dis toutes les boîtes, du luxe à la grande distribution, la structure que nous avions a servi d'exemple et est aujourd'hui intégrée dans toutes les entreprises. Donc je voulais que les étudiants, les jeunes qui sortent aujourd'hui, n'oublient pas ce rôle d'éducateur que quelque part nous avons eu. Oui, mais c'est justement pas le rôle d'une styliste ou d'un bureau de style d'imposer son goût. Nous sommes là pour nous adapter à l'image de marque, à l'ADN de notre client, soit de faire des collections, soit de les conseiller sur l'évolution des consommateurs, puisque nous faisons aujourd'hui énormément d'études sociologiques. Mais nous ne sommes pas là pour être, nous ne sommes pas un créateur avec une image définie qu'on va imposer. Donc, vous avez utilisé un mot que j'aime beaucoup, c'est l'humilité. L'humilité. Je ne crois pas qu'on puisse faire quelque métier que ce soit finalement. J'arrive en fin de vie, donc je peux le dire, si on n'est pas humble. Donc, la curiosité, j'en parlais tout à l'heure, et l'humilité me paraît être... Restons humbles et essayons d'apporter nos éléments, mais tout en restant humble. Et malheureusement, un peu trop souvent... Il y a des personnalités qui dévorent un peu trop, voilà.
Avant qu'on parle vraiment des tendances au sens large du terme et puis du métier du bureau de style, je voudrais revenir un tout petit peu donc sur vous, votre rapport aux vêtements. Je suis assez curieuse de savoir ce qu'il y a dans votre dressing et si vous-même, en tant que consommatrice, citoyenne, vous êtes peut-être pas victime, mais vous avez suivi les tendances.
Oui, bien sûr. Alors, suivi les tendances, c'est en fonction de ses propres goûts et surtout de sa morphologie. J'ai toujours été un peu trop ronde, donc trop de kilos.
Selon une norme définie par... Voilà. On ne reviendra pas sur la question, c'est trop long à aborder ici. Mais...
Non, voilà, exactement.
Selon votre perception, alors en tout cas.
Absolument. Alors, j'ai eu des phases. J'ai dans ma garde-robe aujourd'hui pas mal d'éléments de Jean-Paul Gaultier, par exemple. Aujourd'hui, je fais un grand laps, mais ma garde-robe est encore très remplie et elle est remplie de créateurs, en fait. Alors, j'ai beaucoup été Jean-Paul Gaultier, beaucoup été Yves Saint-Laurent, une période aussi Dior. Et maintenant, je suis très Hermès. Et j'ai une raison majeure, c'est le tissu. Là encore, donc à la fin de ma vie, je reviens encore à ce tissu qui, pour moi, est le départ et la fin. Parce que les qualités de chez Hermès sont absolument extraordinaires et que je ne supporte pas de voir dans la grande distribution sur les portants, les vêtements qui tombent, qui sont comme des chiffons suspendus les uns à côté des autres et que j'aime les vêtements structurés qui se tiennent grâce au tissu.
Et alors, si on fait un peu le constat en partant de votre dressing, est-ce que d'après vous, justement, ce qu'on appelle la tendance est réellement cyclique après toutes ces années ?
D'abord, ça veut dire quoi, la tendance ?
Ah ben ça, c'est à vous que je pose cette question.
C'est plutôt les tendances. Oui. J'ai envie qu'on les mette au pluriel parce qu'il y a des personnalités de consommatrices extrêmement différentes. Et on peut aller du minimalisme noir et blanc à l'esprit très fleuri et bohème. Et d'ailleurs, chez nos clients, c'est ce qui se passe. Il y a des personnalités, des identités extrêmement différentes. Donc, c'est plutôt les tendances. Est-ce que aujourd'hui je suis les tendances ? D'abord, j'avoue que j'ai du mal à, très honnêtement, à dire il y a c'est ça, ça, ça. C'est plutôt en fonction de ma, encore une fois, de ma morphologie et de la tenue d'un vêtement que je l'achète ou de sa couleur parce qu'elle m'intéresse.
Vous trouvez qu'il y a une répétition dans les cycles? Est-ce que justement ces tendances sont réellement cyclique, on a vu avec le retour de la seconde main en force une vraie tendance vintage des années 90 ces dernières années, les pièces fortes un petit peu, le blue jean, la marinière, etc. Est-ce que c'est une réalité? Qu'est-ce qui explique ces cycles?
Oui, il y a des basiques. Ce que j'appelle basique, vous venez de citer la marinière, elle traverse les temps. En tous les cas, elle a traversé toute ma carrière. C'est un élément vraiment basique. Depuis déjà très longtemps, on a aussi une forme d'exotisme qui n'apparaît pas, qui est là. Et quand je dis exotisme, l'Afrique a beaucoup à dire, elle n'a pas fini, elle nous influence beaucoup. Alors c'est peut-être pas par hasard que moi-même j'ai passé 10 années en Afrique, mais ce sont des éléments que l'on retrouve dans l'art, aussi bien dans la sculpture, dans la peinture, et qui émergent et qui n'ont pas fini donc d'émerger. Oui, il y a plusieurs ouvertures et plusieurs possibilités. Le sport est quelque chose de très influent pour le vêtement. Pas simplement le confort, mais une gamme de couleurs très vives, presque primaires, que l'on vient apporter sur une pièce qui est un peu plus sportive, que l'on porte lorsque le vêtement est en mouvement. Voilà, ce sont des éléments que l'on retrouve au travers du temps, mais jamais une tendance qui a existé n'est reprise exactement de la même manière. C'est toujours retransformé différemment. Soit les épaules sont plus larges, soit la longueur n'est pas la même. Alors on croit, on dit « Ah, c'est une réminiscence des années 40 ou des années 50 ou 60 ». Mais c'est jamais exactement de la même manière.
Je pense qu'il y a quelque chose de rassurant aussi et de peut-être logique dans le sens où la mode, si elle peut rechercher des signes dans le futur, enfin pour prédire le futur, s'appuie aussi beaucoup sur les archives. Et dans les maisons, c'est assez courant d'aller plonger dans l'histoire de la maison pour retrouver de la force pour une nouvelle collection. Donc ça, je suis assez curieuse aussi de savoir si ça fait partie de la banque de données que vous analysez, les archives. Est-ce que dans votre travail, ça prend de la place, ça a de la place?
Tout à fait, oui. Ça prend de la place, alors ça dépend du client, de la personne pour laquelle, enfin la personne, l'équipe pour laquelle nous travaillons, la marque pour laquelle nous travaillons. Mais parfois, quand elles ont un passé historique, bien sûr, cela en fait partie. Je me permets aussi de revenir à ce que vous avez dit précédemment sur les teintures et sur le recyclage et la RSE, etc. Alors que dans les années 60, même avant, oui, enfin, on parlait d'écolo. Maintenant, aujourd'hui, c'est bio, c'est RSE, mais c'est pas du tout le même. C'est pas du tout la même conscience.
Oui.
Elle était beaucoup plus superficielle dans les années 60 qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est extrêmement profonde. Et juste un exemple. Par exemple, j'avais teint pour les gammes de couleurs, j'avais fait teindre au Japon une gamme entière de colorants naturels que je remettais dans les cahiers de tendance. Et ça avait été un travail très lourd. Et c'est encore quelque chose que nous conseillons aujourd'hui, justement parce que la teinture naturelle porte bien moins atteinte à la planète que les colorants artificiels, etc. Donc tout cela, l'agence Nelly Rodi est aujourd'hui Bicorp, à la certification Bicorp. Et donc nous essayons de nous l'imposer à nous-mêmes, à tout ce que nous faisons sur les couleurs, les matières, Et nous essayons également de convaincre nos clients qu'ils aillent aussi dans cette démarche-là.
C'est intéressant parce que dans la phrase, l'exemple que vous avez donné sur le plant-based, les teintures avec les plantes, il y a trois choses qui me semblent fondamentales, dites de façon anodine, mais votre rapport au voyage et le fait que vous avez été plusieurs fois au Japon, dont vous êtes passionné, donc, et c'est notamment une des terres mères de l'indigo et de cette culture de la teinture par les plantes, ou du no-dye aussi pour certaines collections de vêtements. Vous avez parlé de votre expérience aussi terrain, c'est-à-dire si vous êtes capable, comment dire, c'est parce que vous avez cette connaissance terrain de comment se fait la teinture par les plantes que vous êtes capable de le recommander à bon escient et avec une conscience des réalités industrielles aussi, parce que tout le monde ne peut pas faire des grands volumes de teinture par les plantes. Et troisièmement, ça c'est une question que j'avais prévue pour la fin, mais allons-y maintenant, justement la part de responsabilité des bureaux de style et de Nelly Rodi dans la transition RSE en particulier, des marques pour lesquelles vous travaillez, en étant figure d'inspiration et force de proposition pour des alternatives plus écologiques dans les manières de produire, mais tout en restant dans l'ADN de la marque et le scope esthétique, etc. attendu. Ça, c'est quelque chose que vous faites, c'est-à-dire vous essayez d'orienter un petit peu le travail des marques en ce sens ?
Tout à fait. Très sincèrement, oui, toute l'équipe est formée aujourd'hui de l'agence et Pierre-François Lelouette vous en parlera parce que c'est vraiment, il a pris ça à cœur de façon extraordinaire ces dernières années. Et c'est loin d'être évident parce que lorsque vous dites à un chef d'entreprise, il va falloir produire moins, il va falloir teindre de façon naturelle, il va falloir recycler. Ça veut dire quoi ? Je baisse mon chiffre d'affaires, donc je fais du chômage dans mon entreprise, je licencie. Et ce n'est pas notre rôle de faire que l'entreprise se porte mal. Donc il faut trouver des solutions et que l'entreprise se porte bien en même temps économiquement parlant, parce qu'on a besoin du système économique. Ce n'est pas simplement un rêve. Pour la planète, nous avons un rôle extrêmement grave, important. Il y a des emplois derrière. Client par client, on cherche des solutions. Alors, il n'y a pas de solution magique comme ça pour tout le monde. Mais contrat par contrat, c'est un travail qui est fait par les équipes internes et on cherche les solutions, justement. De moins faire beaucoup moins de couleurs. Lorsque moi, j'arrivais dans une collection, je disais, allons-y, on va faire les 30 couleurs. Mmh. Aujourd'hui, ils en font 12. C'est juste un petit exemple, mais effectivement, l'utilisation des colorants, la production. Je voyais, j'ai été administrateur très longtemps de l'ENSA, de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et je voyais le travail vendredi d'une jeune doctorante qui fait des teintures naturelles et qui introduit dans le tissu un motif. Et ce motif, avec la dégradation de la lumière ou du colorant donc, et le temps, le tissu est marron, par exemple, et puis au bout de 3 mois, on apparaît très légèrement le motif qui apparaît. Recyclage, c'est un premier tissu qui a été utilisé pour une telle fonction, et puis 6 mois après, c'est autre chose, et donc les stocks peuvent être utilisés pour autre chose, etc. Voilà, il y a des... Alors, pour le moment, c'est à l'échelle artisanale. Il faut pouvoir trouver, sur le plan industriel, comment le faire. Mais c'est, voilà, des voies que votre génération est en train de sont en train de trouver.
Mais c'est vrai que... pour être dans ce milieu constamment, à la fois connaissant les activistes écolos qui ne connaissent rien à la mode et les modeux qui ne connaissent rien à la RSE, oui, l'entre-deux, c'est pas que c'est difficile à trouver, mais on sait que le prisme RSE par la RH, par exemple, est assez mal accueilli, parce qu'on a une représentation assez rébarbative de ce qu'il faut faire, mettre en place. Il y a le juridique, il y a la montée en compétition des entreprises les unes et les autres à qui fera le plus de vrai green ou de green complètement washing. Mais on y va rarement par l'intention, par le désir. Mmh. Et je trouve que les bureaux de style ont vraiment, alors ceux d'envergure évidemment comme le vôtre, mais ont cette propension, parce que cette culture du nouveau narratif, c'est votre rôle en fait, de faire de la prospective et ensuite de raconter l'histoire qui est en marche.
Et de la formation en même temps.
Voilà, et de former aussi les équipes qui ont... au sein des entreprises, une manière as usual de travailler vers une autre méthodologie, donc qui peut être à la fois effectivement en termes de design et d'esthétique pour aller dans le sens du commerce, mais aussi dans le sens de la vertu. Et cette approche, pour l'instant, elle est encore assez timide, je dois dire. Donc c'est très important que vous empoigniez ce rôle. Je voudrais qu'on revienne après sur la façon dont vous travaillez par client. Avant ça, je suis assez curieuse de savoir, donc à votre échelle individuelle, puisque votre métier ne s'arrête jamais, vous êtes en permanence avec des radars multiples, en vous baladant dans la rue, en faisant des rencontres, en ouvrant un magazine ou les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous... quels sont peut-être vos outils de veille, si vous en avez, et comment est-ce que vous rangez dans votre tête ou en pratique, les données que vous agglomérez, avant même de les avoir conscientisées pour un client en particulier?
Oui, les données de veille, à l'agence Nelly Rodi, oui, il y a vraiment des méthodes de veille extrêmement construites, extrêmement... les réseaux sociaux, les magazines, enfin, mais qui ne sont plus de ma génération. Ce n'est pas moi. Donc ça, il faut en parler avec Pierre-François. Mais vraiment, il y a des méthodes extrêmement, extrêmement précises et toute l'équipe est formée à cela. En ce qui me concerne, ma méthode personnelle, parce que j'ai toujours un intérêt pour ce métier, c'est d'aller dans les expositions. Hier au soir, j'étais dans le salon du dessin. J'y ai vu des dessins faits par intelligence artificielle. Et ce sont des choses qui me font réfléchir. À l'agence aussi, nous faisons beaucoup maintenant. Pierre-François a pris un accord avec une société de logiciels d'intelligence artificielle. Donc, c'est une chose aussi qui se fait. Mais ma méthode personnelle, elle est la rue. J'ai vu encore, je me disais, ben voilà, c'est, la magie, elle existe encore. J'ai vu ce matin, sur le trottoir, quelqu'un qui avait un collant Bordeaux, une veste marron, et un troisième dégradé de Bordeaux sur son écharpe. Et c'était très beau, ce marron avec ce Bordeaux. Mm-hmm. Le troisième, c'est tout bête.
Un mood board ambulant, quoi. Vous
voilà,
avez vu...
elle marchait sur le trottoir. Et moi, je conduisais ma petite Fiat. Mais ce sont des flashs comme ça qui font que vous absorbez, votre cerveau absorbe, il digère. Et à un moment, vous rejetez. Si après vous faites une discussion, vous dites, quand je dis une discussion avec des équipes internes, oui, à ce moment-là, l'harmonie peut ressortir dans votre tête. Donc, tout est à regarder.
Oui.
Ceci dit, l'art est quelque chose qui est fondamental, vraiment. Je suis présidente de Paris Capitale de la Création, qui regroupe des salons à la fois d'art, mais de tissus, de vêtements, de maisons et objets de déco intérieur. Et c'est tout cet environnement qui fait que c'est important d'aller dans les salons, de se promener dans les allées, de se faire l'œil. Et finalement, votre cerveau, il digère. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui ressort.
Et alors, une fois que vous voulez transmettre cette méthode, tout simplement, mais la première personne que vous avez recrutée chez Nelly Rodi, c'était une personne en stage qui a fait exactement comme vous, c'était quelqu'un dont vous avez pu, au contraire, en amont déjà tester l'appétence et les compétences pour cette méthodologie de travail qui est assez spécifique. Comment ça s'est passé et comment est-ce qu'on recrute aujourd'hui des trend forecasters?
Ah oui. Alors moi, j'en ai trois qui ont démarré avec moi et qui aujourd'hui travaillent sur le salon, encore aujourd'hui sur le salon Maison et Objets, parce que je les avais introduits, puisque nous avions tous ensemble créé le salon. Et il y a un autre collaborateur. Comment je les engageais, alors qui est Vincent Grégoire et qui est toujours à l'agence, et ça fait 35 ans.
Vous en parlez.
Et, Et, mais bon, les autres, Elisabeth Le Riche, François Bernard, sont des gens auxquels je suis extrêmement attachée, Ute Wegener, qui ont démarré avec moi l'agence. Et en général, c'était très instinctif, pour être honnête. Vincent, je l'ai reçu sur un canapé et je lui ai dit « De quoi avez-vous envie? Apportez-moi vos envies. » Et il m'avait apporté un book, des books personnels dans lesquels il avait des collages, des petits dessins, des éléments. Et voilà. Aujourd'hui, c'est un peu plus construit. Je sais qu'à l'agence, ça vient soit d'une école d'art, soit de l'IFM, de l'Institut français de la mode, soit pour le marketing des grandes écoles. C'est en général dans ces trois secteurs-là que...
Il y a aussi une place importante accordée, on n'en a pas parlé encore, mais à des disciplines, on va dire, moins créatives, voire carrément pas, des sciences sociales, la politique, le pendant économique aussi, l'observation des tendances consommateurs, enfin vraiment dans les actes d'achat. Tout ça fait partie de la méthodologie de travail.
Oui, parce que aujourd'hui, oui, profondément. Déjà dans les années 80-90, j'ai beaucoup travaillé avec les sociologues. Parce que justement, le comportement d'achat, il faut essayer de comprendre vers quoi va le consommateur. Quelles sont les attentes profondes du consommateur? Et donc, ils ont développé à l'agence aujourd'hui un département qui est extrêmement développé et important. Et nous interrogeons dans le monde entier, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, nous avons des groupes de travail pour justement interroger et comprendre les attentes. Ce sont les attentes qui ensuite nous font travailler. Mais nous faisons des présentations à nos clients sur ce thème-là, sur les attentes de consommation, c'est extrêmement important. Évolution de la sociologie, en fait, et des groupes sociologiques.
Et est-ce que, donc étant donné que vous avez également une antenne à New York et une antenne au Japon, est-ce que vous avez justement, vous recrutez sur place des gens qui sont issus de cette culture-là, locale, et que vous formez à votre méthode, ou est-ce que vous avez exporté, on va dire, des gens de Sydney?
Non, parce que, en fait, il faut être dans le bain. Quand on rentre à l'agence Nelly Rodi, on n'est pas forcément un trendsetter, on a fait une école, mais on n'est pas forcément quelqu'un qui a éduqué ses yeux, son cerveau à travailler, à chercher. Et ça le devient avec le temps et avec nos méthodes, et parce qu'on est tous en symbiose, parce qu'on se parle les uns les autres, etc. C'est pas le cas à New York. Et au Japon, ce sont des commerciaux qui font le relais. Tous les dossiers que nous avons pour les Japonais ou pour les Américains ou pour les Italiens ou pour les Espagnols ou pour les Portugais, nous le faisons de Paris.
Oui.
Avec nos équipes, mais on s'adapte au pays, bien
d'accord.
évidemment,
oui,
et au
bien
goût
sûr.
Du pays et à l'attente des consommateurs. Ce n'est pas la même chose à New York. Qu'à Paris. Mais nos équipes sont plutôt des équipes commerciales.
D'accord, très, très clair. Alors, pour entrer dans le vif de l'objet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un cahier de tendance, finalement, matériellement, digitalement, et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur quand on le commande?
Oui, alors aujourd'hui, lorsque j'ai créé l'agence en 1985, c'était 90% ou 95% du chiffre d'affaires. Et je démarrais des contrats, mais peu. Aujourd'hui, ça représente 35%, le guide de tendance. Donc ce n'est plus le cœur du chiffre d'affaires, si on parle chiffre d'affaires, de l'agence. Aujourd'hui, l'agence travaille beaucoup plus en contrat, très personnalisé,
oui.
très privé, marque par marque. Mais le cahier de tendance reste encore une référence. Et il est construit en couleurs. Il y a d'abord un cahier général qui donne les ambiances couleurs et les ambiances d'atmosphère qui vont avec les couleurs. Il y a aussi un cahier prêt-à-porter femme, Ensuite, un autre cahier qui est cosmétique, un autre cahier qui est sociologique et intérieur, décoration intérieure. Donc, ce qui veut dire 5 ou 6 cahiers par saison, multipliés par 2, puisqu'en général, nous travaillons printemps, été encore, automne, hiver. Après, chaque client nous demande des actualisations en fonction de la marque. Si même il se sert du fond du cahier de tendance de la saison donnée, lorsqu'on met en magasin en janvier un produit ou en mars ou en peu importe, c'est pas la même chose. Donc les thèmes généralistes doivent ensuite s'adapter à la marque et surtout à la sortie calendaire, j'allais dire, des collections.
Et alors, comment est-ce qu'on en fait le meilleur usage? Donc, cet outil généraliste d'abord, justement pour ne pas faire exactement la même chose que le voisin.
J'ai très vite décidé de ne pas utiliser une photo que l'on prend dans la presse. Les moodboards que nous avons, quand on fait des moodboards en interne à l'agence, moodboard ça veut dire tableau d'ambiance, on le fait, c'est vrai, à partir de ce que l'on peut trouver dans un magazine ou dans un film ou dans, là où on le trouve, ou dans la rue. Mais j'ai décidé il y a maintenant très longtemps, il y a 20 ans, de faire des photos exclusives. Ce qui représente pour l'agence Negroudi un coût important, parce que ça veut dire photographe, ça veut dire mannequin, ça veut dire maquilleur, ça veut dire transport, assurance, lieu où on va faire les photos, etc. Dans les cahiers de tendance, il n'y a pas de photos qui viennent de l'extérieur. Ce sont toutes des photos que nous commandons à des photographes, ou qui aujourd'hui, notre directrice de création, Cécile Rosentrock, est une très bonne photographe, et elle fait elle-même, elle fait beaucoup de très belles photos. Donc ça, c'est un premier sujet. Depuis également 35 ans, nous n'utilisons aucune couleur Pantone, par exemple. Toutes nos couleurs sont exclusives. Nous les faisons teindre, nous achetons des tissus en coton bio. Là aussi, il y a une démarche de RSE avec des teintures naturelles. Et nous teignons nos couleurs qui sont dans nos cahiers. Ce sont nos couleurs exclusives, sur des matières exclusives. C'est une démarche d'apporter une identité unique à cet outil. Et ça, c'est quelque chose qui continue encore aujourd'hui.
Et donc, ça signifie que ce sont des échantillons que vous allez prendre en photo pour l'objet digital, ou bien c'est le cahier de tendance, c'est un objet physique?
Il est physique. Il a même des échantillons collés à l'intérieur. Et c'est... Alors, il existe en digital, parce que l'abonnement vous apporte le papier ou le digital, mais nos clients aiment beaucoup encore les toucher, les tourner, les passer de l'un à l'autre, discuter dans des réunions, etc. Et de toucher les échantillons qui sont à l'intérieur.
Est-ce que votre client cible est nécessairement une marque qui produit des produits finis, ou ça peut également être les industriels, notamment qui produisent les textiles, les imprimés, etc.
Oui, oui. Il y a un cahier tissu d'ailleurs et impression. L'amont filature, tissage est aussi intéressé par les cahiers de tendance. Alors, toute cette industrie mode, mais pas simplement. Nous avons des personnes qui achètent les cahiers de tendance et qui viennent du food, qui viennent de l'hôtellerie, qui viennent de secteurs inattendus, du cognac.
Pour l'inspiration d'éléments de décoration, l'inspiration, de boutiques.
Exactement. Ou d'une campagne publicitaire. Nous avons travaillé pour des séries télévisées, pour les ambiances à créer dans la série, pour faire des scénarios d'atmosphère générale de la pièce où va se trouver le film, dans lequel va se tourner le film. C'est extrêmement divers, mais c'est essentiellement la mode et la déco.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'IA et des nouvelles méthodes numériques, justement de veille et d'agrégation des données pour ensuite les restituer aux marques. Aujourd'hui, vous diriez que c'est quoi la valeur ajoutée d'un Eliroddy, si vraiment je pousse la question dans la caricature, mais à l'heure justement de ces outils d'intelligence artificielle, est-ce que c'est le facteur humain, la sensibilité qu'est-ce qui fait que vous êtes encore en place depuis toutes ces années, alors qu'il y a cette révolution numérique et qu'il y a aussi cette accélération massive du nombre de collections proposées par an, tandis que vous êtes toujours sur un rythme printemps-été, automne-hiver?
Oui, pour certains clients, on accélère. Quand je vous parlais de la mise en place commerciale de tout à l'heure, quand je parlais de janvier, février, mars, avril, c'est une accélération là aussi. Je pense très sincèrement que nous sommes en train de vivre une révolution comme nous l'avons vécu pour l'industrialisation, comme nous l'avons vécu pour l'écriture, l'imprimerie, grâce à toutes ces nouvelles méthodes. Quand, je vous le disais en début d'entretien, l'agence a des accords avec des agences spécialisées dans l'intelligence artificielle, et lorsque je les vois pianoter, tel acteur prend un café avec Hitler et que dans la seconde qui suit sur l'écran, je vois la photo de l'acteur à la terrasse d'un café en train de prendre un café avec Hitler en 3 secondes. Et que la photo paraît parfaite, etc. Ça nous apporte des changements très profonds. Lorsque je les vois faire des maquillages aujourd'hui par l'intelligence artificielle, lorsque je vois, on pianote sur l'écran, je veux une cuisine à la manière de tel architecte en noir et blanc et que la cuisine arrive en 10 minutes, en un quart d'heure, ça change de toutes les méthodes que moi j'ai connues. Ceci dit, personnellement, j'ai toujours confiance en l'humain et en sa capacité de créativité. Lorsque je montre, ça m'est arrivé, de montrer des images d'intelligence artificielle et de maquillage à certains consommateurs et à des pros, et là on m'a répondu: ah, mais c'est pas assez humain, c'est trop parfait, c'est trop, il y a une symétrie, il y a pas d'asymétrie dans le visage, alors qu'un visage humain a une asymétrie, vous avez une joue un peu plus grosse à gauche qu'à droite, et alors que l'intelligence artificielle vous fait la moitié du truc et puis elle le reporte à droite et à gauche. Donc cette sensibilité là je pense que ce ne sera que l'humain qui pourra l'apporter et le corriger à son logiciel. Il va falloir qu'il y ait une symbiose, une entente. Ils vont se connaître l'un et l'autre. et ils vont probablement sortir des choses extraordinaires. Ceci dit, malgré l'impression 3D qui est aussi extraordinaire, j'espère que nous garderons tout ce qui est artisanal et travail artisanal et sculpture ou poterie ou tout ce que l'on veut, que ce n'est pas la machine qui va remplacer justement la main de l'homme entre le cerveau et la main. Je ne suis pas sûr. Alors oui, avec une impression 3D, on peut peut-être faire une sculpture de Rodin. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que je pense que l'homme va dépasser la période que nous vivons, qui est une période de découverte d'un outil complètement nouveau, et que nous allons, entre la machine et nous-mêmes, aller plus loin encore et construire un nouveau monde. Il y a quelque chose qui est en train de se construire et qui est magique, qui est assez extraordinaire finalement. Nous assistons à une révolution humaine.
Vous y allez avec la même curiosité et la même envie de découvrir quelque chose de nouveau.
Absolument.
Que pour le reste.
Absolument.
Oui, c'est ce
Absolument.
Que je retiens. Je partage assez cet avis. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice critique de l'industrie. Une fois n'est pas coutume, mais avoir votre regard sur Cette accélération massive de la quantité de choses qu'on met en marché, notamment l'ultra fast fashion ces dernières années, dont je sais que voilà, les représentants de l'industrie, dont Pierre-François, luttent contre. Récemment a été adopté en première lecture un projet de loi pour restreindre tout ça. Au-delà du côté désastreux, environnemental et économique probablement pour la France et pour notre industrie, je suis toujours effarée de me dire qu'on dilue aussi le propos même de la mode, la créativité, l'expression de soi, la singularité, dans cette offre massive de vêtements et dans ces clones qu'on nous fait ou qu'on souhaite nous faire acheter toutes les semaines. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la mode ultra rapide sert encore le propos même de mode ? Quelle est votre approche ?
Non. Moi, je ne suis pas, probablement parce que je suis trop âgée, mais j'avoue que je ne vais pas citer de nom, mais les sites d'achat rapides et qui sont consommés finalement par les mêmes jeunes qui portent un jean qui est le produit le plus polluant de la Terre aujourd'hui, il faudrait qu'on ait le courage de supprimer. Je suis moi-même tous les week-ends en train de porter un jean. Mais il faut qu'on se renseigne sur tout, sur la matière, sur les colorants, sur tout ce que représente le jean. Et les mêmes jeunes qui achètent sur un site, que je ne citerai pas, des produits à 10 euros, qui disent être écolo, qui ne vident pas leurs poubelles comme il faut le faire. Voilà, il y a un paradoxe dans la consommation chez les consommateurs d'aujourd'hui, car tout cela n'existerait pas s'il n'y avait pas de consommateurs qui achetaient. Ces sites ont développé leur chiffre d'affaires de façon colossale ces deux dernières années. Je crois que c'est le rôle du consommateur, de celui qui consomme, justement, de jouer son rôle. Nous avons une grande responsabilité, nous tous.
Qu'est-ce que vous conseillerez alors à quelqu'un, admettons un jeune de 18 ans, qui n'a aucune connaissance en matière de mode?
Il faut les former, il faut les éduquer.
Et alors, simplement sans suivre une formation, parce qu'un lycéen, voilà.
Non, mais
on peut
quand
pas...
je dis former, apprendre à l'école, enfin, oui. Il faut faire passer les messages. Il faut éduquer. Ils ne savent pas, en fait, ils ne réalisent pas du tout la manière dont ces produits sont pardon pour le pléonasme, fabriqué, oui, j'allais dire produit, en Asie ou ailleurs.
Est-ce qu'il n'y a pas un rôle d'accompagnement académique des bureaux, justement, de style la transmission de ces informations, étant donné que vous en avez le savoir?
Oui, nous essayons, d'ailleurs, nous avons un accord, puisque nos locaux sont dans un hôtel particulier que Louis XV a construit, et nous avons un accord avec l'arrondissement, le 9e arrondissement, où nous recevons des écoles, où nous des classes, où nous essayons de les former, un petit peu, quand je dis former, les éduquer, qu'est-ce qu'un textile. Et justement, là, nous faisons passer des messages. Régulièrement, puisque on est un espèce de hub de mode. Nous avons donc des échanges et des accords avec différents organismes. Voilà, moi personnellement, en tous les cas, je ne mets pas. Je rejette à plus que 100%. Et autour de moi, quand je vois une gamine avec un truc mignon et qu'elle me dit qu'elle l'a acheté de cette manière-là, j'essaye de faire passer mon message.
Ça perd tout de suite un peu.
Je crois que c'est chacun d'entre nous qui devons porter la bonne parole.
Pour rester un petit peu sur la thématique, puisque la majorité des matières utilisées par les marques qu'on a citées sont synthétiques, dans votre livre, pardon, il y a une phrase et une anecdote amusante avec André et Coqueline Courrèges, qui étaient, comme vous le dites, visionnaires dans les années 60, je crois, et qui vous disaient déjà: Nelly, on ne va pas continuer à faire du pétrole toute notre vie. Alors aujourd'hui, je vous pose la question. D'après vous, quand est-ce que la mode sort du pétrole ?
Oui.
Quelles sont les prévisions?
Là, ce sont des prévisions à très long terme.
Oui.
Donc, ça coûte très, très cher. C'était dans les années 70 pour Coquelin et pour André Courrèges. Oui, ils travaillaient sur la voiture électrique. Et c'était leur... ils ont fait des prototypes absolument extraordinaires. Quand est-ce qu'on va en sortir? Quand on aura trouvé d'autres produits, enfin d'autres...
D'autres substrats, oui. Pour
produire. Je crois que ce n'est pas demain, mais que les grands pétroliers, en tous les cas, font un travail. Et je le dis, une petite anecdote, j'ai une de mes filles qui travaille dans un grand groupe pétrolier, mais qui travaille sur les produits électriques. Parce que j'ai trois enfants, un garçon et deux jumelles. À ce que j'entends de ce qu'elle me raconte, son grand groupe pétrolier fait un travail pour préparer 20 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, pour essayer de diminuer au maximum la consommation de produits polluants. Maintenant, ça reste encore une énergie économique existante.
Peut-être qu'il faut faire travailler et le groupe en question et Nelly Rodi pour réfléchir ensemble à des solutions communes heureuses pour le futur de cette industrie. Je voudrais clôturer cet épisode avec une question Culture G, tout simplement nous livrer la dernière exposition qui vous a enchanté ou celle que vous apprêtez à voir dans ces prochaines semaines. Quelles sont vos recommandations? Et après, j'ai une question un peu plus justement prospective, futuriste à vous poser pour finir.
Aïe, aïe, aïe. Alors, pour tout vous dire, j'ai décidé d'aller à la Biennale d'art contemporain de Venise, qui ouvre au mois d'avril, là, le 14 avril. Donc, je vous raconterai en rentrant. Mais j'ai toujours trouvé, je n'ai jamais raté Venise, parce que quand je dis Venise, l'art contemporain à Venise, la ville, bien sûr, qui est magique, mais l'art contemporain, j'y trouve toujours une inspiration extrêmement forte. J'ai des souvenirs d'être venu de Biennale avec l'arsenal dont les œuvres étaient toutes en noir, avec
des canons.
Les canons, merci. Pardon. Des sculptures en forme de canon, etc. Et d'être venu, et je fais des photos, bien sûr, et bien sûr, je fais mon petit mood board, et je reviens et je raconte, et je dis, regardez, la guerre est sous-jacente dans l'esprit des artistes, etc. Voilà, donc je ne sais pas, je vous raconterai quand je vais rentrer, mais sinon, en ce moment, à Paris... Vous avez trois expositions sur les dessins. Mm-hmm. Je crois qu'il y en a une à l'Arsenal que je n'ai pas encore vue, où il y a la vague d'Okusai qui est reproduite plusieurs fois et qui est formidable. On m'a dit également, mais je n'ai pas encore eu le temps, mais à la Bourse de Commerce, l'exposition a lieu là. Et je suis allé hier rue de la Tour Maubourg, où il y a une très très belle exposition de dessins de plusieurs dessinateurs, et vraiment tout à fait intéressant. Donc voilà, Paris vit. Paris est la capitale de la création.
Absolument. Merci pour ces recos. Alors, dernière question. Zéro piège à l'inspiration.
Ah, pardon.
Dites-moi.
Pardon, ne m'en voulez pas. Mais va se terminer une exposition de Laurence Benaïm à Beaubourg sur le vêtement et la peinture. Où Laurence Benaïm, qui est une grande journaliste, a fait une sélection de tableaux et de vêtements de créateurs, de couturiers actuels. Elle compare donc des tableaux même anciens avec un vêtement et qui est vraiment une très très belle exposition. À voir.
Très bien. Je mets tout ça dans les notes de l'épisode. Et donc ma dernière question, c'est un exercice. Si je vous demandais d'imaginer en 2050, à quoi pourrait ressembler le centre commercial du futur? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Toute liberté créative ouverte. Hein.
Ah oui.
Peut-être dans quoi vous aimeriez vous balader?
Pardon?
Dans quoi vous aimeriez vous balader?
C'est d'ailleurs une question que tout le luxe recherche aujourd'hui. Et l'agence a fait une étude qu'ils sont en train de présenter d'ailleurs plusieurs fois sur la manière d'accueillir, la manière de recevoir. Je crois que j'aurais envie que l'on me reçoive de façon intime, mais sans être collé à moi de manière trop forte. En tous les cas, c'est vrai qu'il faut se reposer des questions sur les grands espaces et sur les grandes surfaces. Après, on peut diviser les grands espaces et les grandes surfaces en petits espaces agglomérés les unes à côté des autres avec une identité très forte à chacune. Donc, est-ce que... Parce que la question se pose également sur les grands magasins américains. Mm-hmm. Il n'y a pas que nos grands magasins du boulevard Haussmann. Il y a aux États-Unis, c'est une culture importante, le grand magasin. Si je parle du marché américain, il se pose des questions parce que les chiffres d'affaires diminuent. La façon de recevoir, la façon de vendre, la façon d'accueillir, les réseaux sociaux, les ventes en digital prennent aussi de la place. Mais il faut continuer à donner envie aux consommateurs de se promener, de sortir, de ne pas rester chez lui devant un écran, mais d'aller faire une véritable découverte, une véritable aventure, qu'il ressorte de là au bout de l'heure qu'il a passée avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'un peu...
expérientiel, différent.
Expérientiel. Ça n'a pas besoin d'être cher ou exceptionnel ou je ne sais quoi, mais au moins sensible. Et là aussi, certains de nos grands magasins français, parisiens, jouent bien le jeu de l'art, par exemple, et de la consommation. Pour moi, l'art est devenu un vecteur naturel. Je ne trouve pas le bon mot, mais c'est devenu l'aventure la plus sensible. Quand on se promène au travers d'œuvres, il y a quelque chose qui se passe, il y a de l'émotion qui se passe en nous, sans qu'on l'analyse très bien, mais il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça que l'on recherche, je crois. Donc ce sentiment... très personnel, enfin, je ne sais pas comment. Alors, la musique peut être aussi quelque chose qui vous transporte. Voilà, je crois qu'il faut faire fonctionner ses sens, ses cinq sens, le goût.
J'aime beaucoup cette idée parce que de tout ce que vous avez cité, rien n'est artificiellement accélérable, c'est-à-dire le ressenti émotionnel devant une toile, quand on écoute la musique, voilà, c'est pas des choses qu'on peut compresser, optimiser, accélérer, et donc voilà, nous inviter à mettre plus d'art dans notre vie et à prendre le temps d'avoir des émotions. Je trouve que c'est une très belle conclusion.
Exactement.
Merci
ça.
Beaucoup, Nelly.
Merci à vous.
Je mets comment dire, le livre et les références, mais qu'on trouve partout à la FNAC et sur Internet, bien sûr. Petit coup dans la caméra. Quelques saisons d'avance. Et je vous dis alors à bientôt. Je reçois Pierre-François, votre fils, le 2 mai, qui sera après la Biennale. Donc j'espère bien avoir quelques insights. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email, de bouche à oreille, de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.